promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grands places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traîne son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence. Tandis que moi, tous les soirs, je suis barman à l'Alcazar. Madame promène son cheveu qui a la senteur des nuits de Chine. Madame promène son regard sur tous les vieux qui ont des usines. Madame promène son rire comme d'autres promènent leur vaseline. Je trouve que Madame est coquine. Madame promène ses cuites de verre en verre de fine en fine. Madame promène les gènes de 20 000 officiers de marine. Madame raconte partout que l'on m'appelle Tata Jacqueline. Je trouve Madame mauvaise copine. Tandis que moi, tous les soirs, je suis chanteuse légère à l'Alcazar. Madame promène ses mains dans les différents corps d'armée. Madame promène mes sous chez des demi-selles de bas quartier. Madame promène carrosse qu'elle voudrait bien me voir tirer. Je trouve que Madame est gonflée. Madame promène banco qu'elle veut bien me laisser régler. Madame promène bijoux qu'elle veut bien me faire facturer. Madame promène ma Rolls que poursuivent quelques huissiers. Je trouve que Madame est pressée. Tandis que moi, tous les soirs, je fais la plonge à l'Alcazar. Madame promène son cul sur les remparts de Varsovie. Madame promène son cœur sur les ringards de sa folie. Madame promène son ombre sur les grandes places de l'Italie. Je trouve que Madame vit sa vie. Madame promène à l'aube l'épreuve de ses insomnies. Madame promène à cheval ses états d'âme et ses lubies. Madame promène un con qui assure que Madame est jolie. Je trouve que Madame est servie. Tandis que moi, tous les soirs, je suis vestiaire à l'Alcazar. Madame promène l'été jusque dans le midi de la France. Madame promène ses seins jusque dans le midi de la chance. Madame promène son spleen tout au long du lac de Constance. Je trouve Madame de Cire Constance. Madame promène son chien, un boudin noir nommé Byzance. Madame traite son enfance qui change selon les circonstances. Madame promène partout son accent russe avec aisance. C'est vrai que Madame est de Valence.
Mourir pas trop amer, commandez fromage et dessert. Et reprenez du camembert s'il est bien coulant. Pour mourir un peu content, choisissez vos médicaments. Si en plus on a mal aux dents, c'est pire que la guerre. Mourir c'est périr un peu, c'est pourrir un peu, c'est moisir un peu. Moisir c'est réduire un peu, c'est maigrir un peu. Maigrir c'est martyr un peu, c'est tartir un peu, c'est pâtir un peu. Pâtir c'est pâlir un peu, c'est gémir un peu.
Bon. Bonjour, vous êtes bien au 89.4 de la bande FM sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans l'émission de l'association des cinéastes documentaristes Ad Hoc. On a déjà traité le sujet. Une émission présentée par moi-même, Caroline Kipp-Morand, et accompagnée à la technique par Anne Galland et Bernadette Mermier. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux films qui parlent de lutte physique et plus précisément de boxe. Nous sommes en studio avec Arthur Thomas Pawlowski. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Pour son film La lutte est une fin. Et Djamila Dzadi Adoun est avec nous par téléphone. Bonjour Djamila.
Bonjour.
Pour ton film Un corps provisoire. Ces deux courts-métrages parlent de coups, évidemment, de boxe, mais aussi de corps, d'identité et d'affirmation. Et donc un petit peu de sport. Je vais vous présenter tour à tour nos deux invités. Alors, Djamila, tu es diplômée des Beaux-Arts de Grenoble. Ah, tu me corriges si je dis des bêtises. Hein.
Oui.
Dès le début de tes études, tu t'intéresses au cinéma documentaire, attirée par les récits qui épousent le réel. Aujourd'hui, tu es réalisatrice, vidéaste, mais aussi chef opératrice. Tu produis des œuvres à la croisée de l'installation, du cinéma expérimental et du documentaire. Ton film « Un corps provisoire » a été réalisé dans le cadre d'une résidence au groupe de recherche et d'essais cinématographiques, le GREC, en 2012. Dans ce film, tu associes des images d'une boxeuse, de son corps en mouvement saisi sur une scène qui a l'air d'être une scène de théâtre, et une bande-son très riche dans laquelle on entend notamment donc, une boxeuse, sans doute la même qui parle, et je veux dire sans doute la même qu'on voit boxer, mais ça c'est une question. On l'entend parler de son rapport à la boxe, on l'entend aussi se déplacer, évoluer, souffler. Alors, avant de te donner la parole pour quelques premiers mots sur ce film, on va écouter un premier extrait. Donc, je laisse la place à ton film.
Le beau geste, c'est celui qui va toucher alors. Qui va arriver à la finalité de réussir à toucher. Quoi. Il y a quelque chose qui parle à tout le monde en fait, tant qu'on est dans les règles. Quoi. Bien que le geste pur n'existe pas. Quoi. Enfin, le coup net, ouais. Si à un moment donné, il y a un orgueil, un surcroît d'orgueil qui va se faire et qui va avancer, par exemple, bah là, ça peut être considéré comme un beau geste, un morceau de rage qui va sortir de quelque part, quoi. Je ne me fais pas toucher, je bloque, bam, je mets un bras avant, en contre, bravo, bras arrière, dans l'axe, bam, ça touche, en haut, en bas, je la laisse se fatiguer, il reste 40 secondes de travail, elle se fatigue, je ne me touche pas, je suis bien protégé. Je me sens pas à gauche, je vais me laisser avant,
direct, ça va être qui part de la gare, qui va aller droit devant soi, en fait, en direct.
Je protège, je contre, dans l'axe, bravo, bras arrière. Je décide de faire un pressing, divers secondes en pression, les juges. Je la touche bien encore pour qu'elle se rappelle d'un bon que c'était dur.
Mais le plus beau en boxe, c'est de faire un nadir, quoi, t'électrocute, quoi. L'autre, elle s'attend pas, là, en vérité, tu vois. Elle te met un coup, waouh, direct, ou de l'autre côté, ou peu importe, en tout cas. Mais ouais, elle va déclencher, et je vais la toucher avant. Avoir du cœur, c'est rien lâcher, et tant que ça va pas sonner, ping, c'est pas fini, quoi.
Alors Djamila, donc on a écouté un extrait de ton film, c'est qui se situe plutôt au début du film. Et en fait, avant de rentrer dans une réflexion sur vraiment comment il est construit, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née pour toi l'envie de faire ce film sur cette boxeuse, sur la boxe, et comment tu as rencontré la boxeuse?
Alors, ben je l'ai rencontré finalement très peu de temps. Enfin, disons qu'il y a eu la rencontre et assez rapidement le projet de film derrière et assez rapidement encore derrière le film qui se fabrique. J'avais été sollicitée par une structure qui s'appelle toujours d'ailleurs l'École de la Deuxième Chance, qui était installé à Grenoble. Et donc, il m'avait invité à venir réfléchir avec les élèves à un projet de film dans le cadre d'un appel à projet auquel il voulait répondre. Et je crois que l'intitulé de l'appel à projet, c'était « Filmer le métier qui te plaît ». Enfin, bon. Et donc, l'école de la deuxième chance, ils accueillent des jeunes qui sont sortis du système scolaire. Et ils proposaient donc à ces jeunes des formations plutôt professionnelles. Mmh. Et moi, j'avais un peu entrevu cette intervention comme la possibilité d'aller aussi chercher des métiers, un peu les métiers rêvés, parce que c'est des parcours finalement très, très contraints, ces formations-là. Il faut trouver du travail rapidement dans des filières qui sont sous pression, donc les élèves n'allaient pas forcément vers là où ils voulaient aller. Mmh. Le cadre de ce projet devenait un peu une espèce de parenthèse où on pouvait aller un peu explorer d'autres métiers, les métiers auxquels, pour lesquels ils avaient peut-être un fantasme. Bon, après avoir fait une liste, le métier de boxeur professionnel est revenu assez souvent, et donc moi, j'ai fait des repérages à Grenoble. J'ai contacté des salles d'entraînement et des entraîneurs pour savoir si dans leur sillon, ils avaient des boxeurs professionnels qui accepteraient de participer au projet avec les élèves, d'être filmés. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Myriam. Mmh.
Myriam Delal, c'est ça ?
Myriam Delal, tout à fait, qui à l'époque était suivie par un entraîneur qui s'occupait de cette salle-là dans laquelle on a pu filmer. Et la rencontre avec Myriam a été assez fulgurante. Enfin, elle avait une puissance, moi, qui m'a... qui m'a fascinée tout de suite. Et puis très vite, on a eu une relation assez simple et puis elle était très généreuse aussi dans son rapport avec les élèves. Elle a vraiment joué le jeu et très vite derrière j'ai eu envie de faire un film avec elle. Mmh.
Qui n'est évidemment pas le film de l'atelier avec les élèves. Enfin, je veux dire, il y en a eu un avec les élèves.
Non, le film de l'atelier avec les élèves, il a été tout autre. Oui. Il devait répondre. Enfin, c'était un travail quelque part un peu... Enfin, voilà, qui devait avoir un certain format. Mm-hmm. Et puis qui donnait la parole à plusieurs boxeurs.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mon envie à moi était de me concentrer sur... Sur Myriam, ouais.
D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu es venue à elle parce que... Enfin, tu es venue à... un film sur elle parce que tu l'as rencontrée, quoi, globalement. C'est la rencontre qui a fait le film, si on peut dire.
Ah oui, complètement. Mm-hmm. Oui, d'accord. Oui. Enfin, moi, je pouvais avoir une curiosité, effectivement, pour la pratique de la boxe. J'en ai jamais pratiqué moi-même, mais... ça a été... J'ai rencontré un univers, j'ai rencontré un espace, puis j'ai rencontré surtout Myriam, qui était un personnage hyper puissant.
Mm-hmm. D'accord. Alors, je vais présenter Arthur. Donc, Arthur Thomas Pawlowski, tu es éducateur de formation. Tu t'es investi dans Nuit Debout à Grenoble et dans la jungle de Calais. Tu as fait un Master 2 en écriture, recherche et création de films documentaires à l'Université d'Aix-Marseille. Suite à quoi, tu as remporté un appel à projet de scénario documentaire du Grec. Donc, on va pouvoir peut-être parler du Grec ensemble parce que vous y êtes passés tous les deux. Et tu as donc réalisé ton film, La lutte est une fin, dans le cadre de cet organisme, mais un peu plus tard, en 2002. Donc, Djamila, c'était en 2012.
2022.
Toi, en 2022, pardon. Il manque une petite vingtaine d'années.
Oui, c'est ça.
Donc, tu es aujourd'hui réalisateur, programmateur de films documentaires et ingénieur son sur des films. Dans ton film La lutte est une fin, qui a été primé au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, tu alternes des images d'entraînement, des entretiens avec deux boxeurs, Mao et Marvin, et des images de la Bourse du Travail de Marseille, où se déroulaient à l'époque les entraînements du collectif, mais aussi des scènes festives autour de matchs de boxe. Donc on va écouter un premier extrait qui se passe... Un peu, assez au début, et on entend un petit peu l'histoire du collectif. C'est à vous la technique.
Si,
pas de lui.
Ouais. C'est important de se poser aussi. Putain. C'est ça, c'est quand je le pose, par contre, je sors comme
après
ça.
C'est la fête, j'ai touché, pas du tout.
Tu pourrais me raconter un peu ses débuts, parce que maintenant c'est devenu autre chose, mais en fait ça ressemblait à quoi à l'époque
enfin, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien du tout au début.
À la base, je sais, moi j'étais pas encore là, mais je sais que c'était la volonté de deux gars, en plus de Diego, donc de Diego et deux autres boxeurs, de créer un collectif différent, prolétaire, qui donnait plus l'accès à tout le monde, vraiment tout le monde, je mets l'accent dessus parce que c'était ça le truc, c'est-à-dire même les sans-papiers, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire tout le monde.
Et nous, en gros, on s'entraînait dans Frévalon, mais on avait un tout petit espace dans la salle, tu vois, où il y avait déjà un club, le Challenge Boxing Club, qui est le club de Louis Lavallée. Et nous, on était là-bas, mais bon, les gens, ils n'avaient pas spécialement d'œil pour nous, tu vois, ils nous laissaient, on était vraiment dans un coin de la salle, et vraiment, on boxait là-bas. Et le seul truc que vraiment on faisait au nom du collectif, c'était les cours le samedi matin au Catalan. Et là, c'était cool, quoi. Tu vois, c'était l'occasion d'avoir des cours à la plage. Et à force de régularité, bah, les gens qui nous voyaient, ils ont fini par venir. Et on avait Jules et Martin qui étaient là, qui ont réussi à nous négocier le fait qu'on ait un créneau dans ce bâtiment. Et c'est vrai que là, c'était la première fois qu'on avait un créneau dans une salle qui était à nous. En fait, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et c'est vrai que du coup, ce bâtiment, pour moi, s'il y a quelque chose, c'était un peu les premiers pas de liberté, tu vois, on n'avait pas de compte à rendre, on pouvait faire ce qu'on voulait.
Le fait de le faire à la Bourse de Travail, c'est hyper symbolique parce que avant, c'était là où les travailleurs, les chômeurs, les pauvres, les ouvriers se retrouvaient pour s'éduquer, se communiquer, s'organiser. Tout se faisait là-bas. Il y avait des bibliothèques à la Bourse du Travail avant, quand même. C'est quand même des salles de sport, des salles d'art, tout se passait là-bas. Et on allait là-bas pour faire nos activités, voilà, comme des centres sociaux un peu, mais pour nous. Donc c'était super et en fait, évidemment, c'est mort. Et on veut le mettre au goût du jour. Et là, on est en train. Donc là, le mec du vélo est hyper chaud. Donc si ça marche, on fera des trucs comme ça. On va essayer d'ouvrir aussi le... Vu qu'on a tous les vendredis vraiment frais pour nous, on va essayer peut-être de faire des conférences, des trucs comme ça pour amener des projets du monde.
Alors, on a eu oui, un petit bout de musique qui n'avait rien à faire là, mais il y en a pas là.
C'est sympa aussi.
On l'écoutera tout à l'heure. Arthur, comment est-ce que tu peux nous raconter comment toi, de ton côté, tu as eu envie de faire ce film, tu as rencontré le collectif, l'histoire de la genèse de ce film?
Tout à fait. Alors moi, ça commence avec mon arrivée à Marseille. J'arrive à Marseille pour faire un master de réalisation de films documentaires à l'université de Marseille. Et du coup, en fait, ça se fait un peu de deux manières différentes. Enfin, il y a deux raisons au film, j'ai envie de dire. C'est d'abord la nécessité, en fait, tout simplement pour le master, d'avoir un sujet de film et de le travailler pendant le master. Et pourquoi ce sujet plus? Et là, c'est évidemment pas que le master. C'est parce que à ce moment-là, j'avais l'envie d'apprendre à boxer, de me confronter un peu à la question de la violence physique, qui chez moi était assez... voilà, il y avait quelque chose de pas du tout évident pour moi dans la question de la violence. Ça me figeait plus qu'autre chose. Et du coup, je me demandais un peu... j'étais curieux, en fait, de comprendre pourquoi est-ce que j'étais figé par cette violence et qu'est-ce que les gens venaient chercher dans le fait d'apprendre à se battre, quoi. Et du coup, je recherchais un collectif de boxe sur Marseille. Et on m'a assez vite parlé du collectif Boxe Massilia parce que il proposait des cours de boxe à prix libre À l'époque, pas dans la Bourse du Travail, mais dans une salle, un centre social au niveau du cours Julien à Marseille. Et en fait, du coup, c'était la possibilité de faire de la boxe et sans payer cher. Et puis, en fait, il y a eu un lien qui s'est créé avec le comité chômeurs et précaires de la CGT. Et en fait, là, il y a eu un peu une évidence pour moi de sujet de film qui était que je viens aussi un peu d'un univers militant par ailleurs. Et du coup, il y avait un peu ces deux univers qui se rencontraient et qui me questionnaient. Et du coup, voilà, la question de la lutte sociale et de la lutte physique qui se rassemblait me parlait énormément. Et puis voilà, je leur ai proposé de faire un film de manière assez cash, quoi. J'ai été voir une des personnes, je lui ai dit, bah voilà, je cherche un sujet de film pour mon master, est-ce que ça vous dit? Et très vite, il m'a dit que oui, ça allait tenter. Donc du coup, à partir de là, bah, c'est le moment de la rencontre. Alors après, il y a plein d'épisodes qui s'en suivent, mais on va dire que le début, il commence ici. Et il se fait tout au long du master avec le travail de l'écriture et tout ça, jusqu'au moment du grec, donc du coup, après le master. Où là, c'est un appel à projet, en effet, dont tu as parlé dans la...
Dans l'intro, ouais.
L'intro.
Ouais. Et donc, en fait, tous les deux, vous avez répondu à l'appel à projet du grec, en fait. C'est comme ça que vous êtes allés tous les deux au grec, ou est-ce que c'était des modalités différentes?
On a deux modalités. Peut-être qu'on peut les présenter chacun, chacune. Enfin, il me semble, Jam, que t'as pas la même que...
Ouais, on n'a pas la même, tout à fait.
Donc moi, c'était en fait, ça s'appelle l'appel à projet sur scénario. Du coup, le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, c'est une association, peut-être pour commencer par là, qui est financée par le CNC pour produire des premiers films, exclusivement des premiers films. Et donc, ils ont différents appels à projets dans l'année. Le mien, en l'occurrence, c'était ce qu'on appelle l'appel à projet sur scénario. Donc en fait, il y a trois commissions par an. Où le grec reçoit des projets de films sur dossier. Voilà, donc l'idée, c'est que le film n'a pas été tourné et que du coup c'est vraiment un dossier classique, note d'intention, note de réalisation, synopsis. Et en fait, si le film est choisi dans cette commission, ensuite ce qui se passe, c'est qu'il est assez chouette pour un premier film, c'est que tout de suite le budget est déjà en fait alloué. Il n'y a pas d'attente particulière, donc le grec, il y a un accompagnement du grec sur comment monter un budget et tout ça. C'est des petits budgets de films, ça tourne autour de maximum 18 000 euros, mais ça permet vraiment quand on part de rien en fait d'avoir quand même de quoi faire un film un peu pré-produit, en tout cas un court métrage, ça c'est sûr. Donc voilà, moi
c'était le film de ton master que t'as financé comme ça.
Oui, bah alors en fait moi c'est un parcours un peu rigolo, c'est-à-dire que le film n'a, moi dans mon master il y avait 4 films qui étaient retenus par année, on était une dizaine et du coup il a pas pu être fait pendant le master parce qu'il a pas été sélectionné. Et par la suite j'ai continué, mais accompagné aussi par le master finalement, enfin par les profs qui ont continué à me suivre un peu, et donc du coup je suis passé par le grec et en fait ça l'a fait, du coup ça a permis de le réaliser dans ce cadre-là, donc ce qui était une suite assez heureuse pour
d'accord,
moi.
Oui, effectivement. Et toi, Jamila, comment ça s'est passé du coup avec le grec?
Moi c'était dans le cadre, donc il y a un festival du court-métrage à Grenoble dont le grec est partenaire, et donc à l'époque ce concours existe toujours, c'est un concours de scénario. Alors aujourd'hui, je crois que c'est le concours... il faut écrire une série 5 fois 2 minutes. À l'époque, c'était pas ça. C'était un projet de court-métrage. Et donc, on soumettait un dossier. Moi, je sais plus... Enfin, une note d'intention, un synopsis. Et moi, j'avais déposé donc le projet de film dans ce cadre-là, concours de scénario. Et il a remporté le premier prix. Et du coup, donc c'était une dotation du grec. Il y avait un préachat de France 2, puisque France 2 était partenaire. Donc c'était dans le cadre d'Histoire courte. Et il y a le département de l'Isère aussi qui abonde pour cette bourse. Et donc il y avait effectivement de l'argent pour faire le film. Et aussi 2 semaines de résidence pour finaliser un peu l'écriture, quoi, avant tournage.
D'accord. Oui, c'est bien. Voilà. C'est un beau dispositif. Et oui. Mais en fait, le grec, ce n'est pas le seul point commun que vous avez. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, vous vous connaissez bien, tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont vos liens?
Arthur, tu veux...
Vas-y.
J'y vais?
Ouais, vas-y. Carrément.
Avec Arthur, on se connaît bien parce qu'on fait partie du même collectif de cinéastes à Grenoble. Donc, c'est un collectif qui s'appelle Cinex. On est 5 réalisateurs documentaristes, voilà, et on fait vivre cette structure donc à Grenoble qui permet, voilà, il y a plusieurs champs d'intervention. On diffuse du cinéma documentaire dans le cadre d'un événement qu'on appelle l'Excentrique Cinéma. Là, donc, l'édition va se dérouler au mois de décembre prochain. Donc là, on propose du cinéma documentaire d'auteur. On fait une sélection de films qu'on a généralement vus dans l'année. On intervient aussi dans le champ de l'éducation à l'image avec des projets collaboratifs au sein de structures socio-éducatives ou scolaires. Et puis on accueille aussi en résidence des cinéastes qui sont au début d'un projet pour lesquels il n'y a pas encore de d'économie. Et donc nous, on propose un espace de travail pour l'écriture ou de pouvoir utiliser une salle de montage. On met à disposition aussi, on utilise du matériel, pour permettre au projet de commencer à se structurer pour ensuite prétendre à une production par la suite. Mm-hmm. Je sais pas, bien sûr. Ouais.
C'était très clair. En fait, on s'est rencontrés, moi, au moment où j'étais en master, et du coup il fallait que je fasse un stage, il se trouve que je suis grenoblois par ailleurs, et du coup j'avais entendu parler de Cinex à Grenoble, et c'est comme ça en fait que j'ai découvert l'association et du coup Jamila, et aussi le fait que en fait Cinex a une place assez importante pour moi dans le moment de l'écriture du film. Et ça a été vraiment un lieu ressource, quoi, qui m'a permis et de confronter en fait mon écriture à d'autres réalisateurs, réalisatrices qui avaient de l'expérience, quoi. Mm-hmm. Et du coup après ça, en fait, donc moi j'ai profité un peu du système de résidence de Cinex, en fait, et après ça, du coup, j'ai continué l'aventure. Et puis Jam a aussi fait partie en fait du film. Enfin, m'avait proposé de m'aider sur le montage du film, et du coup elle est intervenue sur le moment le deuxième regard de montage, quoi, au moment où avec Clara, la monteuse du film, on avait besoin d'un autre regard. Et c'était super intéressant parce qu'elle est arrivée avec son expérience et sur une question plus rythmique. Mm-hmm. Et qui avait été hyper riche. Et puis du coup, c'était il y a ce lien un peu forcément aussi du film de Jam que moi j'avais vu.
Jamila.
C'est par réflexe, je dis ça.
C'est preuve que vous vous connaissez bien.
C'est ça. Qui m'avait aussi nourri, quoi, d'une certaine manière dans la manière d'appréhender la boxe, et notamment par le son.
D'accord. Oui. On va venir à tout ça. Tu voulais dire quelque chose, Jamila?
Non, j'écoutais Arthur, ça me faisait plaisir ce qu'il disait.
Alors, on va venir à toute la réflexion sur justement construction du son, construction de l'image, narration, etc. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale. Donc, on va écouter Claude Nougaro, 4 boules de cuir, pour rester dans la thématique qui va... C'est parti.
Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, OTS le pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher. Box, box, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mes cigans et mes gants ne pensent pas le même. OTS le pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sous quatre pieds de guerre bombarde le plexus, l'angle du maxillaire. Quatre poules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Il esquive mon swing, qu'il m'arrache en les marres de cette réunion. Je vais te faire voir qu'il est le champion. Quatre poules de cuir et soudain qui roule, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7. Enfin, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires. On dépend de mes mains, Guide Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Au déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire force comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, force, force, j'y pense encore lui.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Notre émission aujourd'hui porte sur la thématique de la boxe, avec nos deux invités Arthur Thomas Pavlovski et Jamila Dadi Hadoun. Alors, je voulais vous demander à tous les deux, comment vous avez abordé ce thème de la boxe? C'est un thème qui a été, c'est une, un sport qui a été beaucoup filmé, qui a donné lieu à beaucoup de films, de fiction comme, comme documentaire. Et donc, je voulais savoir un peu comment vous vous situiez par rapport à cette cinématographie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent, au contraire, des choses que vous vouliez éviter? Voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu tout ça?
Vas-y, Jamila.
Oui, alors c'est marrant, pendant Clou de Nogaro, j'ai essayé de me rappeler quels avaient été les films que j'avais regardés à l'époque quand je préparais le film. Bon, il y a évidemment ce film de Klein sur le, un combat de Mohamed Ali à Kinshasa. C'est dans la période, la grande période panafricaine. Oh là là, et c'est Mohamed Ali contre je ne sais plus qui. Bon voilà, j'avais regardé.
Je peux pas t'aider.
Bon, peut-être ça va me revenir plus tard. Mais bon voilà, j'avais regardé ce film que j'avais trouvé assez beau et puis qui replace aussi les enjeux de ce combat à ce moment-là de l'histoire. Et avec la question de l'identité panafricaine. Enfin voilà, des questions moi qui me parlent et qui sont importantes pour moi. Donc je me rappelle de ce film là. Après j'ai regardé, enfin je suis retournée beaucoup voir de la peinture, je suis retournée voir des Caravage, j'ai plutôt écouté de la musique. C'est marrant, je me rappelle plus de là où j'avais un peu trifouillé, qui sont plus dans des dimensions sonores que au niveau de l'image. Je crois que ce qui m'avait vraiment nourri, c'est plutôt la peinture.
D'accord.
Pardon.
D'accord. Je dis d'accord. Donc c'était pour un travail très esthétique en fait, plus que des choses sur le qui est en rapport avec le sport, la boxe. Enfin, je sais pas. Là, je j'imagine. Mais pourquoi la peinture en fait? Qu'est-ce que tu cherchais dans la peinture?
Je crois que je cherchais à comprendre comment j'avais envie de filmer Myriam, quelle pourrait être l'image la plus juste par rapport à ce que je ressens d'elle et ce que j'ai envie de faire sentir d'elle. Mm-hmm. Et du coup, c'est plutôt du côté de la peinture que j'ai trouvé un peu des réponses. Mmh. Ouais, voilà, ce que je pourrais en dire. Peut-être qu'il y a d'autres références qui vont me revenir en tête. Bon, après, je l'ai fait en 2012, donc il y a un petit moment déjà. Mmh. Mais bon, voilà, pour l'instant, je crois que je dirais ça.
Mmh. Et toi, Arthur, ouais. De ton côté ?
Eh ben, ouais, j'y réfléchissais en même temps que déjà me parler. Forcément, c'est vrai que quand... Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, quand je me suis lancé un peu dans ce sujet-là, au début de mon master, je venais vraiment pas du milieu du cinéma, donc du coup, j'avais une certaine culture cinématographique, mais pas énorme quand même. Et du coup, on m'a tout de suite dit... Ah, tu vas faire un film de boxe, c'est vraiment le classique, y a plein de films là-dessus et tout. Donc je me suis dit, en même temps, c'était assez enthousiasmant, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc tout de suite très dramaturgique dans le fait de la boxe, du 1 contre 1, du coup qui part, enfin voilà, qui est très en lien avec le cinéma, quoi, et très agréable à filmer. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose d'assez du coup effrayant parce qu'on se dit tout le monde l'a fait, donc enfin voilà, pourquoi un film de plus quoi finalement. Mm-hmm. Donc du coup, oui, c'est vrai que j'en ai regardé pas mal. Alors j'ai regardé Raging Bull parce qu'on m'avait dit faut absolument le voir. J'ai trouvé ça, par exemple sur la question du son, hyper ringard.
Oui, ça c'est sûr.
où les sons sont vraiment très appuyés sur le coup. Enfin. Il y avait quelque chose... Moi, j'ai trouvé ça presque drôle, quoi, j'avoue. Et après, j'en ai vu un autre qui m'a beaucoup inspiré, mais plus sur la dramaturgie, je dirais, qui s'appelle Sparring Partner, et qui est un documentaire d'un réalisateur italien. Un documentaire assez contemporain, quoi. Enfin, c'est les années 2010-2020, je pense. Enfin, quelque chose comme ça. Et là, c'était un peu sur la figure d'un boxeur professionnel, en fait, qui revient dans le monde de la boxe après avoir été accusé de dopage et qui passe par l'entraînement notamment d'un jeune nouveau boxeur. Il se rachète un peu comme ça sa conscience. Mais il y avait... ce que j'aimais bien dans ce film-là, c'est qu'il y avait un vrai regard sur l'ailleurs de la boxe. C'est-à-dire que c'était pas... Bien sûr qu'il y avait le ring qui comptait, mais il y avait tout ce que ça... créé en fait dans la vie de ce personnage là et je crois que c'était ça que j'avais envie d'aller chercher, c'est-à-dire que la boxe était évidemment un rapport très important pour moi, mais je crois que c'était presque ce qui se passait en dehors du ring qui m'intéressait dans un premier temps, quoi, on va dire. Et vu que moi mon sujet il touche aussi un peu frontalement le côté de la lutte syndicale, il y avait aussi une panoplie un peu de films comme ça qui militants quoi, qui me plaisaient, notamment les films de Bruno Muel dans son film avec le sang des autres qui m'avait beaucoup marqué, et où je trouvais que sur le rapport à la parole, il filmait d'une manière très belle les ouvriers de cette usine de Peugeot qui parlaient face caméra, mais sans que ce soit des entretiens plombants. Enfin, il y avait quelque chose où c'était très doux et très beau, et en même temps, il prenait une place de personnage dans un entretien face caméra. Et ça m'avait vachement marqué, parce que du coup, je trouvais qu'il y avait du jeu dans l'entretien. Et c'était une idée que j'avais envie de reprendre aussi.
Mm-hmm. C'est pour ça qu'on t'entend un petit peu.
Pardon ?
C'est pour ça qu'on t'entend un petit peu dans l'entretien ?
Peut-être. Je me suis pas posé cette question-là, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée dans l'entretien de l'échange avec eux, quoi. Et je sais qu'il y a un peu cette... ce film m'a vachement marqué dans l'idée... Et dans le 4 tiers, il y avait évidemment le... Donc le film est en partie en 4 tiers. Il y avait cette idée de contenir les corps des boxeurs, boxeuses. Mais aussi un peu s'amuser d'un clin d'œil au film politique de cette période-là. Mm-hmm. D'où le grain aussi un peu de la couleur et tout ça. Donc moi, je me suis un peu nourri en fait de deux univers, je dirais, et à la fois les films de boxe et à la fois le côté politique.
Deux univers d'ailleurs qui visuellement se retrouvent dans ton film, puisque il y a la boxe, mais cet atelier, ces rencontres, enfin ces entraînements sont à la Bourse du Travail. Donc effectivement, oui. Il y a l'imagerie de la CGT, les tracts, les affiches, les autocollants et cette musique. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot tout de suite, mais moi quand je l'ai entendue, je me suis retrouvée dans une manif. Plus moi, je sais que toi, ça, tu voulais peut-être évoquer un petit peu des choses variées. Comment tu...
Non, mais c'est intéressant. Je l'avais pas forcément ramené sur cet aspect-là. Bah, disons que la batterie, c'était quelque chose de très assez intuitif, quoi. Où je me disais, en fait, j'avais pas envie de tirer vers un côté mélodique parce que je trouvais que le rapport déjà au film était très dramaturgique entre la lutte sociale et la lutte physique. Il n'y avait pas besoin de tirer une musique de là, mais par contre je me disais qu'en effet j'avais envie de la musique de la lutte, quoi. Et de la violence, quelque chose d'un peu rêche et en même temps entraînant, parce que eux ils ont une boxe très très dansée, et du coup je voulais un truc qui nous fasse partir, et puis en fait je voulais quelque chose, ouais, qui reproduise cette idée de la danse un peu. Et et sur la question du son aussi, je pense que ça avait un vrai, en fait, j'avais échangé avec Anne-Julie, qui a fait le son du film de Jamila, d'ailleurs, et qui m'avait dit, j'avais trouvé ça super intéressant, qui m'avait dit sur la question du son de la boxe, attention, n'en fais pas trop, tu vas être entraîné par les coups, les souffles, c'est hyper fort, hyper beau. Mais en fait, l'image dans les films de boxe est déjà tellement forte que il va falloir jouer en finesse, quoi. C'est pas le fait de... Et donc, du coup... je savais que j'allais devoir un peu me contenir sur les moments de combat et tout ça en post-prod. Et peut-être qu'il y avait au fond de moi un peu l'envie, à un endroit du film, d'assumer ce côté justement sonore à fond, et que ce soit pas que l'image qui gagne, en quelque sorte. Et c'était, voilà, pour moi, c'est ce lien, en fait, un peu à des moments d'exagérer le son du coup, et de faire ressentir ce que ça entraîne, peut-être.
Et toi, Jamila, pour le coup, c'est le cas de le dire, on n'entend pas de coups. Ça, c'est quelque chose qui est pas du tout, enfin, il n'y a pas du tout ça dans ton film. Pourquoi ce choix, en fait? Elle est en shadow boxing, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. C'est-à-dire, elle frappe comme s'il y avait un adversaire face à elle, mais il n'y a pas d'adversaire. C'est ça.
Oui, c'est ça. Oui. Et elle visualise le combat. Et donc, elle boxe un adversaire imaginaire. Oui. Mais avec un état de concentration qui est censé être le même que celui qu'elle va devoir avoir au moment du vrai combat face à un vrai adversaire. Ça, c'est assez étonnant, je trouve. Cette capacité de faire exister l'autre, mais que soi, en fait. Enfin, c'est... voilà, et je sais plus quelle était la question, pourquoi on...
Bah, du coup, en fait, il n'y a pas du tout de... C'est de la boxe, mais il n'y a pas du tout de coup. Enfin, on la voit en maître théoriquement, mais voilà, il n'y a pas de bruit de coup, en tout cas.
Il n'y a pas de bruit de coup, mais il y a des bruits d'impact. Il y a des bruits d'impact qu'on a rendus plus musicaux, donc qui sont évidemment traités, dont on a modifié le grain, la texture... Donc, on ne les perçoit pas comme des sons de coups, mais c'est quand même des sons d'impact, mais qui viennent comme des motifs, effectivement, qui viennent participer à la composition sonore, mais qui ne sont pas identifiés comme des sons de coups. Enfin, l'idée, ce n'était pas d'illustrer ce que peut être sonorement la pratique de la boxe. L'idée, c'était que ça devienne plutôt un support musical.
C'est un peu, moi j'entends un peu comme des claques, si on peut dire. Plutôt des coups, mais pas des coups de boxe, effectivement, des coups un peu différents, effectivement. Ou alors c'est pas ceux auxquels tu penses, mais. Il y a effectivement beaucoup de couches sonores, hein, dans le film. Alors on va peut-être réécouter un extrait de ton film, et ensuite on verra avec un extrait du film d'Arthur, mais on va commencer par l'extrait numéro 5, donc du film de Jamila, dans lequel on entend Myriam qui parle de doute, le fait de douter ou de ne pas douter.
Après le fait d'aller dans le ring, rester concentré, c'est pas ça le plus dur, quoi. Mais il va falloir que je fasse attention. Voilà, c'est tout. C'est pas ça le plus dur, quoi. Rester concentré. Mais ouais, je peux douter, enfin, je doute pas, quoi. Des choix que tu fais aussi, enfin, je doute pas. Rester concentré. C'est un peu ça, ouais. Des choix que tu fais aussi, enfin, je doute pas. Sur des instants, ça peut m'arriver, tu vois, où je m'en fous de tout, ou alors je viens d'apprendre. C'est un peu ça, ouais. Mais il va falloir que je fasse attention, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà,
Alors, donc, dans cet extrait, Jamila, on entend donc Myriam. Est-ce que... Et on entend pas mal, effectivement, de couches sonores. Donc, il y a une musique. Et il y a des bruits divers et variés. est-ce que tu veux nous dire un mot de la musique et du travail sonore que tu as fait pour ce film?
Déjà, je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait avec Anne-Julie Rollet, dont parlait Arthur il y a quelques instants, donc, qui est musicienne, compositrice en électroacoustique. On a travaillé essentiellement depuis Les Sons du Réel. On a fait plusieurs séries d'enregistrements. Et Anne-Julie, comme moi,
Excuse-moi, je t'interromps. Vous avez fait des enregistrements plutôt en salle ou des sons du réel, mais assez variés?
Plutôt en salle. On a fait des enregistrements en salle. On a fait aussi des enregistrements dans l'espace du tournage. Alors en fait, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi ou quelqu'un. Oui, c'est toi qui disais que Myriam semblait être dans une salle de théâtre, sur un plateau. Et en fait, non, on est dans une boîte noire en fait. Donc c'est pas ça un espace de représentation. C'est vraiment un espace qui nous permettait vraiment d'être dans l'antichambre. Enfin, l'espace. Oui, c'est le cube noir, quoi. Et à l'intérieur de ce cube, on a aussi enregistré des sons à ce moment-là. Puis on a fait quelques sessions aussi en studio. Et il y a aussi des sons d'Anne-Julie qui font partie de sa sonothèque, hein, d'une certaine manière. On est allé chercher des motifs qui venaient répondre un petit peu à ce qu'on construisait au fur et à mesure.
Elle était donc à la prise de son et aussi la compositrice de la musique.
Oui.
Et au mixage, j'imagine, après, peut-être, ou en tout cas au montage son.
Au montage son aussi. Enfin, on a travaillé ensemble vraiment, constamment. Enfin, on a fait avancer l'écriture ensemble. Et après, la partie mixage, enfin toute la post-production du son, c'est d'autres, avec d'autres personnes qu'on a travaillé, mais c'est un travail de composition, un travail de montage, enfin tout ça est assez assez entremêlé.
Et voilà. Du coup, à l'écriture, comment vous l'avez pensé cette bande sonore? À part le côté témoignage qui est sans doute l'enregistrement de la voix et de la parole qui est ce qui paraît le plus simple, pas forcément, ça l'est pas forcément, mais ça paraît le plus simple, mais la construction de tout ça, comment vous l'avez réfléchi?
À l'écriture, je pense que j'étais pas allée aussi loin. Il y a quelque chose aussi qui s'est élaboré au fur et à mesure, hein, quand même. Mais je dirais que, enfin, si, quand même, à l'écriture, j'avais quand même cette envie de construire une espèce de polyphonie à partir d'une voix intérieure. C'est Myriam qui est en prise aussi avec elle-même dans cette gestion et cette perception de l'instant. Et c'est pour ça qu'on parle de doute et c'est pour ça qu'on questionne qu'est-ce que c'est qu'un beau geste. Enfin, à quel moment on est juste, à quel moment on a la bonne posture, qu'est-ce qui fait que le beau geste puisse advenir, et c'est la qualité de présence en fait qu'on doit aussi avoir. Et moi, j'avais envie de construire une polyphonie qui vienne convoquer un peu tout ça. Donc je savais qu'il y avait une construction polyphonique et je savais que ça allait être uniquement avec la voix de Myriam. Et ensuite, je voulais qu'on travaille ensemble avec Anne-Julie, parce qu'on se connaissait par ailleurs, parce qu'on avait travaillé ensemble sur d'autres projets. Mais elle a justement dans sa démarche quelque chose auquel elle croit très fort, c'est la musicalité de la parole. Et elle a une très belle manière de travailler ça. Et donc, disons qu'on a trouvé un peu comment tout ça allait s'écrire aussi ensemble, quoi.
Et donc, dans ce travail, quelle était la place justement de la boxe elle-même, de l'univers de la boxe, de l'univers sonore de la boxe?
Je crois que c'est tout ce qui concerne le corps, en fait, et le corps engagé dans la pratique. C'est pour ça que le souffle est très, très important. Oui, enfin, il y a quelque chose, le souffle, mais c'est pas, enfin, c'est le souffle engagé dans le mouvement aussi, différentes qualités de mouvement. Je crois que la pratique de la boxe, je voulais pas, comment dire, je ne voulais pas documenter précisément ce que c'est que la boxe ou le corps engagé dans la boxe, mais c'est aussi dans cet effort-là. Qu'est-ce que le corps vient raconter? Qu'est-ce qu'il produit comme son?
Oui, c'est plus le corps que le coup. On revient au coup. Le coup, enfin, finalement, t'intéresse pas vraiment, quoi. Qui est quand même un des fondements de la boxe, dirait-on. Si on se touche pas, on n'a plus de boxe. Mais là, toi, c'est pas toi, c'est pas ce qui t'intéressait.
Moi, ce qui m'intéressait, je crois fondamentalement, je dis pas que ça ne m'intéresse pas, hein, mais je veux dire, ce qui m'intéressait moi fondamentalement, c'est plutôt la trajectoire intérieure de Myriam quand elle est engagée dans cette pratique, que je trouve, c'est une très très belle allégorie de tout ce qui, peut nous traverser aussi nous dans la vie quand il s'agit de se positionner, quand il s'agit de faire acte, de, enfin voilà.
Et effectivement, c'est vrai que c'est des moments très forts. On réécoutera sans doute, normalement on devrait avoir le temps de réécouter un extrait où on l'entend à nouveau parler de tout ça. Mais c'est vrai que le dialogue intérieur et puis l'importance de la boxe dans la vie, c'est aussi un point commun entre vos deux films. Et je pense que c'est un point commun entre beaucoup de films, en fait, sur la boxe. Hein. C'est rarement des films vraiment sur le sport. C'est évidemment plutôt des films sur ce qui se passe à l'intérieur des personnes qui la pratiquent. Et du coup, Arthur, on va peut-être écouter un extrait et on pourra en reparler après. Ouais. C'est un extrait dans lequel Mao parle de sa transition, ouais, et donc de son rapport à la boxe. C'est parti.
Bien. Mais je le sens que ma posture, je suis plus comme ça, tête baissée, à regarder par terre. Là, je te regarde. Si tu me regardes bizarre, je vais te regarder dans les yeux profondément pendant tout le trajet. Et en fait, tu vas rien me dire. Et ça, je pense que c'est le truc principal, le changement principal que j'ai découvert avec la boxe. C'est cette confiance dans la rue, enfin, par rapport au rapport à l'autre. Ce sentiment d'aller vous faire foutre, quoi. Et que je trouve vraiment dingue que ce soit tellement fort qu'on me le dise même plus. Enfin, moi, je pensais que du coup, j'allais pouvoir répondre. Mais du coup, on m'attaque plus. Là, c'est un moment très dur. Parce que du coup, grâce à la boxe, je suis devenue l'homme que je voulais être, clairement. Beaucoup, parce que en plus, grâce à la muscu, du coup, je me masculinise de jour en jour. Enfin, ça fait que s'améliorer. Et en plus, je me sens de plus en plus beau. On me trouve de plus en plus beau. C'est super. Je me sens homme. Je le dis de plus en plus aux gens. C'est génial. Mais en fait, il se trouve que je fais de la compète. J'essaye de haut niveau. Et qu'en compétition de haut niveau, il n'y a pas de catégorie trans, c'est homme ou femme. Et du coup, je suis obligée de rester dans la catégorie femme. Et du coup, je suis coincée, en fait, entre la boxe et ma transition.
Alors, à nouveau un tout petit bug. Donc, on a eu un bout du film de Mila qui s'est collé au bout du film d'Arthur. Mais tout va bien.
On va faire des mix comme ça.
Voilà, c'est un mix, exactement. En fait, on a des DJ à la technique. Arthur, oui, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ce travail justement de faire surgir aussi une parole qui parle d'autre chose que de boxe finalement. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez travaillé ça?
Comme je le disais tout à l'heure, un peu comme je l'ai introduit, on va dire, par la question du travail de Muel dans le film Avec le sang des autres, où je disais que je trouvais qu'il y avait un rapport à la parole qui m'intéressait beaucoup. Moi, quand j'ai rencontré Mao et Marvin dans le collectif de boxe, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est plus ce qu'ils disaient que je trouvais absolument incroyable que leur rapport, que de les voir boxer. Et je trouvais que ils avaient, Mao a déjà un rythme de parole dans cette question de la musicalité dont parlait Jamila qui est assez assez incroyable, quoi. Il y a un truc où quand il se lance pour raconter les choses, il y a quelque chose de très comme s'il était dans un flow et que ça continuait, quoi. Et à un moment donné, j'ai même trouvé que il cherchait les mots pour parler de ce qu'il ressentait Il cherchait les mots pour parler de ce que lui faisait la boxe et qui avait comme une sorte de combat parallèle qui était aussi dans l'usage de la langue et de comment pouvoir nommer quelque chose qui est très physique et qui est très dans l'ordre du ressenti.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup apposer, en fait, confronter l'usage des mots et l'usage des points, quoi. Je trouvais qu'il y avait quelque chose... Et que, en fait, dans ce collectif, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était hyper important. C'est-à-dire ne pas se... Évidemment, la question du corps et de savoir se défendre est primordiale, mais c'est aussi parce que ça amène aux mots en parallèle, parce que ça amène à la politisation de certaines situations et que du coup, c'est pas juste se défendre physiquement, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se défendre et comprendre ce que ça vient créer. Et je trouve que bah, dans ce moment, dans cet extrait que tu as choisi, il y a cette question que moi je trouve assez hypnotisante, qui est en fait que il s'attendait à ce que il fait de la boxe parce qu'il subit une agression sexiste et j'imagine que, enfin, d'ailleurs, dans le premier moment où il parle de son agression, ça finit par le fait qu'il dit qu'il aimerait bien revoir le mec qui l'a agressé à ce moment-là. On comprend que visiblement il a plus le même rapport au fait de se défendre et qu'il pourrait bien prendre le dessus par rapport à lui maintenant, quoi. Et là, à ce moment-là, il dit quelque chose d'à la fois très cru et très, je trouve, très pacifique, enfin étonnamment pacifique. C'est que, en fait, finalement, le fait d'apprendre à se battre et d'avoir appris ça, ça lui a permis de ne plus se battre en dehors du ring, que au moment du ring, dans un espace qui est maîtrisé, avec des règles. En dehors, c'est sa posture qui compte, c'est le fait de sa confiance. Et je pense que, en fait, après, sur la question de comment est-ce que on a travaillé la parole dans le terme de contenu ensemble, c'est que pour le coup, alors Marvin, c'était un peu plus instantané parce que lui, c'était son rapport peut-être plus au tournage, c'est-à-dire qu'il avait, on l'a fait un entretien préalable. Et ensuite, il m'a dit, c'est bon, quoi, on y va, tu me diras le jour J, et puis il n'y a plus besoin de préparer, quoi. J'avais plus besoin de préparer que lui. Et Mao, il y a eu plus une relation de long terme, je pense. C'est d'abord avec Mao qu'on s'est rencontrés. Et donc, du coup, on a fait deux, trois fois, en fait, des entretiens. Et ce qui a permis un peu de je pense... Enfin, par exemple, il avait très bien compris que le récit de l'agression sexiste, ça m'importait. Et il savait, du coup. Donc, au moment où je lui pose la question, il sait comment il a envie de le raconter et il sait que ça va être posé. Sur la question de son rapport à la transition, ça a été un enjeu primordial dans le sens où il fallait pas du tout que ça prenne le dessus sur le reste. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait vraiment cette volonté et de sa part et du coup de la mienne de dire que en fait c'est la boxe qui compte et si en fait il y a la question de sa transition, c'est bien parce que c'est lié à la boxe. Mm-hmm. C'est parce que en fait la pratique de la boxe est à la fois libérée dans ce rapport-là, il le dit, il se trouve beau, il se perçoit en tant qu'homme, et en même temps l'a enfermé dans quelque chose d'un rappel à ce que c'est que de pratiquer un sport dans une société patriarcale, quoi, en gros, et qui veut absolument est binaire, quoi, en fait, ouais. Hein, qui a besoin d'enfermer soit dans le côté homme, soit dans le côté femme. Et donc du coup, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est étrangement douloureux. Et libérateur et douloureux. Et en fait, c'était voilà. Enfin, moi, ce qui était important, mais on l'a travaillé ensemble, hein, avec Mao, c'était que ça ne prenne pas le pas sur le reste, mais que ce soit bien corrélé au fait de lutter.
Mm-hmm.
Non pas que ça devienne un parcours individuel, mm-hmm. Mais que ce soit relié au collectif, quoi.
Et visuellement, d'ailleurs, vous l'avez. Je sais que c'est quelque chose que tu as dû faire une deuxième proposition, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été très simple non plus à monter.
Ouais, non, ça n'a pas été simple. Jamila, on est témoin. Non, ça a été compliqué. Disons qu'il y a eu plusieurs regards au montage. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a eu un moment où en fait cette parole, justement, qu'il avait à la fin, cette parole dont on a entendu l'extrait, il la disait en comme tout le reste du dispositif de la parole, c'est-à-dire face caméra. Et en fait, il y avait un deal entre lui et moi et Marvin par ailleurs, c'était que à un moment donné, avant la fin du montage, je leur montrerai le film et que s'il y avait une parole qui les mettrait à mal et que ça pouvait, voilà, ça pouvait avoir un impact sur leur vie, on devrait trouver un moyen de changer. Et il se trouve qu'à ce moment-là, bon, ils ont vu le film, ça leur a quand même fait un choc, c'est tout le temps un peu choquant, j'imagine, de se voir voilà, à l'écran, puis la parole est vachement restreinte comparée à tout ce qu'on a dit et tout ça. Mais surtout, il y avait ce moment-là où Mao me dit « Bah là, ça marche pas, ça prend le pas, quoi. » Justement, ça prend le pas sur le fait que c'est moi qui raconte ma vie, que c'est moi qui parle de ma transition, et que qu'il n'y a plus cette question du boxeur, elle disparaît à la fin, quoi. Et donc, du coup, on s'est retrouvé face à ça avec Clara et on s'est dit, bon, c'est quand même un peu la catastrophe parce qu'on ne sait pas comment changer tout ça, quoi. Et en fait, c'est Clara, à un moment donné, qui est revenue, je crois, à un moment, en mettant, en fait, bah, évidemment, là, on entend juste la parole, donc on ne le voit pas, mais en fait, cet extrait de parole n'est plus face caméra, mais c'est un extrait de parole qui est mis sur Mao qui combat, en fait, qui combat d'ailleurs dans le vide, quoi, comme dans le film de Jamila, qui est face mm-hmm. À rien. Et en fait, là, ça lui donnait... Enfin, cette juxtaposition, c'est le seul moment du film, en fait, où il y a de la parole sur des corps qui boxent. Et ben ça a marché. Bon, et pour nous, on était super satisfaits. On se disait, ah oui, en fait, il reprend le dessus. Et pour lui, quand il l'a revu, il a dit, c'est bon, c'est gagné, quoi. Mm-hmm. C'est gagné parce que là... c'est bien mon rapport à la boxe qui reprend le dessus et c'est plus moi qui raconte ma vie. Et donc c'était super, enfin c'était super enrichissant parce que c'était un vrai, pour moi en plus où c'était, enfin c'est mon premier film et du coup j'avais plein de doutes sur l'utilisation du documentaire, enfin le lien qu'on pouvait avoir entre filmeur et filmé, quoi. Mmh. Et c'était un vrai enjeu pour moi parce que, enfin, tout simplement parce que c'est un enjeu qui est important, qui me touche. Et du coup, je savais pas si vraiment on pouvait trouver un terrain d'entente, en fait. Parce qu'on dit souvent qu'en fait, il faudrait, il faut pas se laisser manger non plus par nos personnages, quoi. Parce que c'est notre regard et tout ça. Et donc là, j'avais vraiment un point de dilemme de me dire est-ce que, en fait, il a son mot à dire ou pas, quoi. Mm-hmm. Et puis en fait, ce qui était super intéressant, c'est qu'en le re-regardant, pour moi, c'est une des scènes qui me touche le plus mm-hmm. à ce moment-là. Parce mm-hmm. qu'en fait, il est vraiment en train de boxer. Et en plus de ça, il y a ce moment juste derrière où il parle de ça, il est bloqué. Il y a mis un temps de silence qu'on a travaillé vraiment à ce moment-là. Et il y a un temps de silence dans un univers de boxe. Enfin voilà. Donc, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui marche et qui était, du coup, c'était assez riche de me dire, ah, en fait, c'est possible.
Et ça a enrichi plus le film plus que, qu'appauvri, en fait, c'est en ça. Trouvant un compromis.
Ouais. Mmh. Ouais.
Super. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter une musique qui est dans ton film, Arthur, ouais. Libérer la bête de Cazé. Ouais. C'est parti.
Qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle. qui aura ma gueule sera décoré d'une médaille, deviendra un modèle, une idole pour la foule, un symbole, le cow-boy qui a vaincu le cow-boy, mis dans la corbeille, la queue et les oreilles, cloué au portail, le trophée de la bataille. On me croit criminel, anormal, me voit dans les tunnels, me cherche dans le canal, avec fusil et jumelles, il faut me faire mal, là le journal est formel, au signal, viser la moelle, donner la mort intentionnelle, rien n'est rationnel, la chasse est nationale, passionnelle, prise en charge par des professionnels, éliminer l'animal, qu'il soit mâle ou femelle, salir sa gamelle avec sa pisse ou ses semelles, et la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête, libérer la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête, et elle est sûre d'elle, hors d'elle, adore le bordel, ses morsures sont mortelles, et ses blessures morcelles, et elle sort elle, le crotal avec son venin fatal, à coup survenir à elle, c'est périr d'une morsale, elle harcèle, dort seule, protège son épine dorsale, et à elle seule, représente le mal universel, pille toutes vos parcelles, vos portions, vos pincelles, faites attention à celle que la cruauté ensorcelle, scellez les arrières-salles, les nacelles, les passerelles, les quartiers, les cartels, les écoles maternelles, quelles sont les nouvelles, ces rituels, éventuels, où va-t-elle, où vit-elle, ces va-et-vient habituels, ces questions sont vitales, essentielles, capitales, son habitat naturel, ses réflexes sont mentales, sa pensée bestiale, sa colère officielle, vous la reconnaîtrez, son pelage est spécial. Et la bête, effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête, libérer la bête. Effacer sa tête, essayer d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne nier même pas les misères que vous lui faites, elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête, libérez-la. Cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale. À la verticale, par les cervicales, ils ont lynché la curiosité tropicale. Et sa fin fut sans appel et radicale, sans autopsie ni même avis médical. On la montre, on l'étale, sa mort est un régal. Et de porte en porte et d'escale en escale, on balance poubelle, insulte, matière fécale. La foule est immense, cruelle et inamicale. La charogne, le chacal, finira dans un bocal. Mais au fond, quel est le mobile de cette cabale? Mais au fond, quels sont les motifs de ces coupelles? Mais au fond, pourquoi lui infliger toutes ces séquelles? Mais enfin, dites-moi pourquoi vous avez peur d'elle? La bête n'est qu'elle-même et n'a pas la tête du teckel. Libérez la bête, effacez sa tête, essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez la bête, effacez sa tête, essayez d'oublier qu'elle n'a grappillé que les miettes, et ne niez même pas les misères que vous lui faites. Elle n'a pas d'autre tort que d'avoir une autre tête. Libérez-la.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire. Dans l'émission, on a déjà traité le sujet de l'association des documentaristes Ad Hoc. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Djamila Dadi-Hadoun, qui nous parle de son film Un corps provisoire, et d'Arthur Thomas Pavlovski pour son film La lutte est une fin. On a déjà beaucoup parlé de vos films en termes de son. On pourra peut-être revenir dessus. Mais une question que je me posais aussi, c'est... pour revenir un peu à cet héritage cinématographique de la disons d'une manière générale donc de la boxe telle qu'on peut l'imaginer en fait, c'est un univers assez viril, assez comme tu disais un peu il y a la question quand même de la violence, c'est ce que tu disais Arthur, et donc je voulais savoir comment vous aviez réfléchi cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous gênait, que vous voulez contre lequel vous vouliez construire autre chose, ou est-ce que finalement vous avez vraiment réfléchi vos films sans vous poser ces questions-là? C'est peut-être un peu ton cas, Djamila. J'ai l'impression que toi, tu t'es pas forcément interrogée par rapport à ça, d'après ce que tu m'as dit en premiers éléments.
J'ai pas creusé la question, c'est ça. Mais non, enfin, si, je sais pas. Bah, mais si, il y a quelque chose d'impressionnant quand même. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette pratique-là. Je me rappelle à un moment donné, il y a un des boxeurs de la salle qui m'avait proposé de monter sur le ring et puis d'essayer de mettre des coups. Et moi, je suis rentrée dans des fous rires. En fait, j'y arrivais pas. Et je sentais que c'était une pratique qui était très, très, très loin de la mienne. Mais pour autant, je ne l'ai jamais vue comme une pratique violente du tout. Mm-hmm. Parce qu'en fait, y a un cadre, les règles sont claires. Et ce qu'on cherche, c'est autre chose. On ne cherche pas à faire mal. Enfin, si on cherche, on cherche à faire mal, évidemment, le but, c'est le chaos. Le but, c'est le chaos, quand même. Mm-hmm. Mais je ne sais pas, je crois que tout ça se fait dans le plus grand respect. On n'est pas là pour faire mal, en fait, c'est dans le sens noble. Je ne sais pas, c'est un peu étrange de dire ça, mais je sais que, enfin, en tous les cas, dans ton film, Arthur, c'est très, très bien dit par Marvin. Je trouve qu'il le dit très très bien. Il dit, mais en fait non, la violence elle est ailleurs, elle est dehors en fait. Mmh. Elle n'est pas dans la salle, elle n'est pas sur le ring. C'est quand on ne peut pas rendre les coups que là c'est violent. Le but en boxe, c'est d'être à égalité dans un même espace, encadré par les mêmes règles. Et il y a un aller et un retour. Et le but, c'est que le but c'est de se répondre, enfin, qu'on donne le change, quoi. Et c'est ça qui fait que le match est beau, et c'est ça qui fait que le combat est puissant et embarque tout le monde. C'est quand il y a eu un bel échange, en fait. Donc, je dirais que non, enfin, moi, je n'ai jamais été tiraillée par la question de la violence. Enfin, je sais pas, il suffit d'aller dans une salle de boxe, de regarder un petit peu comment tout ça se passe, ou de regarder des combats. Et très vite, je trouve que la question de la violence est évacuée. Mmh. Ou alors elle se joue ailleurs, c'est plutôt dans un rapport de soi à soi, si on continue à regarder les choses comme ça. Mais très concrètement, c'est pas ce qui se passe. Mmh.
Et ouais. Et dans ton film, tu Myriam est dans une box noire, je sais plus comment tu disais ça, un cube noir. Donc tu la sors de tout l'environnement traditionnel de la salle d'entraînement, des sacs, des tapis de sol, des murs parfois un peu usés, enfin voilà. Et elle est seule d'ailleurs sur cette scène. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de la mettre un peu comme ça à l'extérieur de tout ce décorum?
Je pense que j'avais pas envie de traiter non plus l'espace social. Encore une fois, j'avais vraiment envie de travailler plutôt la question intérieure de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui travaille à l'intérieur dans son rapport de soi à soi. Je crois que c'est vraiment cet endroit-là qui m'intéressait. Après, j'avais aussi envie de la sacraliser quelque part, je crois, peut-être. Mmh. De lui fabriquer un écrin pour pouvoir être encore plus proche d'elle. Mm-hmm. Pour pouvoir être tout contre.
Mm-hmm. Et c'est vrai que dans l'image, on est, en tout cas au début, on est vraiment tout contre.
Oui, oui.
Et on s'éloigne petit à petit, très concrètement. Et donc, oui. t'as choisi de partir du très près et d'aller un petit peu plus vers l'extérieur, vers le gros, le plan général. Et pourquoi ce mouvement de recul doux, si on peut dire?
Ben, parce que j'avais envie que probablement sa voix puisse être dans un premier rapport. De fabriquer une intimité tout de suite avec le personnage, mais comme une espèce de voix qui viendrait nous chuchoter et qui serait possiblement notre voix intérieure à nous. Enfin, je sais pas, j'avais envie de ça et quand même de lui redonner aussi de sa singularité dans le film, qu'elle nous apparaisse petit à petit, en fait. Qu'elle nous apparaisse petit à petit, mais en ayant à installer, dès le départ, une relation très, très intime.
Mmh. D'accord. Et donc, à la fin, on la voit parce que... enfin, on la voit, on voit son visage apparaître seulement vers la fin.
Oui.
Et c'est très beau, d'ailleurs, au moment où on la voit enfin apparaître à l'image. On a un visage, quoi.
Oui, on a un visage, mais par ailleurs, on l'a quand même rencontré aussi. C'est pas la rencontre ne se fait pas à la fin. Enfin, il me semble. En tous les cas, mon intention, c'était de construire un peu les choses comme ça. C'est qu'est-ce que ce personnage est en train de nous raconter, qui possiblement se raconte de nous aussi. Enfin, et qu'on n'est pas que dans le champ de la boxe. On est dans. Enfin, je crois que je suis allée à fond. Enfin. J'ai vraiment voulu pousser la question allégorique au bout, quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, on va écouter un troisième extrait où on l'entend parler effectivement du vrai soi et on est vraiment avec elle au fond de ses pensées.
Du coup, à ce moment-là, peut-être c'est l'inconscient ou l'interne qui parle à ce moment-là, je sais pas, tu sais, mais des fois sur des séances quand je vais être super fatigué, je vais sortir des trucs. Pourquoi quand je suis en pleine forme et tout machin, j'ai pas cette conscience-là de chercher plus loin que le corps physique, quoi. Parce qu'une fois que tu sais faire les choses physiquement, t'es prêt pour les faire, tu sais les faire, quoi. Après, ça va chercher plus loin, je pense, le corps et la tête, quoi. Hein. C'est clair. Mais c'est cet instant-là, là, dans la sensibilité où je vais être la meilleure, peut-être, tu vois. Où ça va partir et que, voilà, le soi, c'est le vrai soi, quoi.
Voilà, donc je suis presque essoufflée à l'entendre. y a aussi un côté très charnel, très beau en fait, de son corps à l'image. Je pense que c'est quelque chose sur lequel vous avez vraiment travaillé, de ce grain de peau, de ces muscles qui se dessinent, qu'on voit pas. Enfin voilà, c'est quelque chose d'effectivement très 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 beau à l'image. Et l'éclairage aussi, je pense que vous avez énormément travaillé l'éclairage, évidemment, pour mettre en valeur, comme tu disais, en faire un écrin.
Oui, avec Christophe Cardoen, qui est plasticien et qui travaille au moyen de sources lumineuses qu'il fabrique lui-même. Et c'est un vrai plasticien de la lumière, quoi. Il, c'est un sculpteur, il sculpte l'espace, vraiment. Mmh. Donc oui, c'est aussi ce travail avec Christophe qui a permis ça, évidemment.
Mmh. Oui, c'est très beau. Et Arthur, toi, de ton côté aussi, bah, je pense que tu as pas mal réfléchi, évidemment, à ce... Bon, on est, dans le, pour le coup, dans la salle d'entraînement, dans ton film. Mmh. Donc, on a... c'est la bourse du travail, c'est un petit peu décrépit. Enfin, voilà, il pousse les tables pour faire de la place pour s'entraîner. Comment est-ce que tu as réfléchi ça et comment tu as réfléchi aussi les rings? Parce que pour le coup, autant chez Djamila, on voit pas d'adversaire, on voit pas de combat. Toi, il y a des combats, mais y a une manière très spécifique de les montrer. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas avant la fin. Voilà. Comment est-ce que tu as réfléchi un petit peu ce côté-là, les combats et puis la salle d'entraînement? Enfin, voilà, tout ce décorum, comme je disais tout à l'heure.
Bah oui, c'est un élément qui est... En fait, d'une certaine manière, comme Jam, c'est un huis clos et ça a son importance. C'est pas du tout le même décor que dans le film de Djamila, mais par contre, il y a ce huis clos qui contient en lui-même à l'intérieur le ring. Et j'ai l'impression que ça a été hyper important. Après, ce huis clos, il est très particulier, c'est celui de la bourse du travail. Et la bourse du travail, il y avait... En fait, c'est quand il y a eu cette idée du lieu dans la bourse du travail qui se sont retrouvés là-dedans, c'est devenu assez évident que ça devait être un huis clos. Parce qu'il y avait cet accueil dans ce repère, ce refuge de l'histoire ouvrière, des luttes ouvrières dans lesquelles ils arrivaient. Et en même temps, il y avait cette... confrontation avec un espace qui est très particulier, et comme tu dis, qu'il y a quelque chose un peu de mélancolique, de quelque chose qui est à la fois chargé d'histoire et en même temps qui n'est pas vraiment renouvelé, quoi. Mm-hmm. Donc du coup, eux, ils arrivent dans cet espace-là en bougeant ces tables, qui semblent être un peu figées dans le temps, là pour faire des réunions, mais sans qu'il y ait vraiment ces présences suffisantes pour les combler, quoi. Et eux, ils cassent, hein, entre guillemets, ou alors ils construisent autre chose, peut-être, que ces salles de réunion. Et moi, c'était... En fait, c'était cette entrée dans les lieux, elle était hyper nécessaire pour moi, hyper importante. C'est l'espace de rencontre, en fait, entre cet espace vide, mais en même temps un espace vide qui est un refuge. C'est pas que du vide, c'est pas que des faits, ça reste quand même très solide comme bâtiment pour moi et pour eux, puisque alors certes c'est un peu moins vivant, mais quand même ils arrivent à construire leurs entraînements ici et jusqu'à aller par faire ces galas de boxe, que l'on suit dans le film, où alors là la bourse du travail est absolument remplie, pleine à craquer même. Et en fait il y a toujours eu, disons, dans cette idée de décor, il y a toujours eu l'envie que, en fait, il y ait il y a cette histoire du plein, du vide en permanence pour moi qui se complète. Et il y avait cette idée qu'il n'y ait pas la dramaturgie du combat classique que l'on a en boxe qui soit présente dans le film. C'est-à-dire qu'il y a... je voulais pas de face à face, à un moment donné, qu'il soit si évident que ça. Je voulais qu'on l'attende, et puis je voulais que, en fait, il soit pas là, parce que j'avais l'impression que ça reflétait aussi leur manière singulière de faire de la boxe. C'est-à-dire que, évidemment, alors ils en font en compétition et tout ça, donc il y a un moment donné où ils se retrouvent confrontés en un contre un, et puis un gagnant, un perdant, hein, c'est pas non plus... Mais disons que c'était ma façon à moi de les idéaliser dans le film, enfin de rendre compte de leur pratique, que de ne pas avoir un match final qui soit en un contre un, mais un match final qui soit en fait en collectif. Donc du coup, en fait, le combat n'arrive réellement qu'à la fin. À chaque fois on l'esquisse, sauf à l'entraînement. Sauf à l'entraînement, où en effet là on voit un sparring, un entraînement à se battre. Mais le moment où il y a réellement ce combat organisé, délimité par le ring, il n'arrive qu'à la fin, et en fait il a lieu par un travail de montage que Clara a fait de manière assez voilà, assez folle, moi, je trouve, où j'avais toujours cette idée du combat collectif, c'est-à-dire qu'en fait, que leur combat soit coupé à chaque fois. Et finalement, voilà, cette idée, c'était qu'en fait, on dépasse les deux personnages de Mao et de Marvin pour bien dire que c'était ensemble qui se construisait. Et que, du coup, c'était plus vraiment Mao et Marvin qu'on regarde se battre, mais c'est le collectif. Même, j'espérais me dire que ça dépassait le collectif, puisque ça se passait dans la bourse du travail et qu'on pouvait se laisser rêver de se dire que c'était un combat un peu éternel, une lutte qui se tient dans cet espace-là, quoi.
Alors, on va écouter un petit extrait. Alors, c'est pas la toute fin, c'est un peu avant. On va d'ailleurs réentendre Kazé, parce que c'est de là qu'elle est venue à l'émission. C'est donc un moment où on a donc un gala de boxe, comme tu disais, et il y a Mao qui monte sur scène avec cette musique et qui a l'air tellement heureux. Et on n'a pas de combat en fait, donc on l'entend, mais c'est un peu on arrive au combat et on n'a pas le combat. On écoute l'extrait. C'est pour l'ambiance.
À ce moment-là, peut-être c'est l'inconscient ou l'interne qui parle à ce moment-là, je sais pas, tu sais, mais des fois sur des séances.
Bon, encore un petit bug, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez réentendu un petit bout de Myriam, mais là, on va rester sur l'extrait d'Arthur. Arthur, donc, je me suis trompée d'ailleurs aussi. J'ai dit que c'était un combat, un gala, c'était un autre, ou peut-être d'ailleurs c'est le même. Mais effectivement, c'est la fin du film. Donc, en fait, on ne voit pas Mao à ce moment-là sur scène et on n'entend pas Kazé. On voit effectivement ce mélange de combats dont tu parlais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au son, on voit que il y a la batterie qui arrive, qui prend de la place. On en réentend un peu de son in, on repart sur la batterie. Et effectivement, on voit un combat, un autre, etc. Ouais. Donc c'est vraiment très 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 réussi. Bravo. Et oui, il y avait une chose intéressante aussi qu'on entend dans cet extrait, c'est que c'est une femme qui présente ce combat. Est-ce que c'est intéressant justement dans cette dévirilisation, si on peut dire, de la boxe. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Oui, oui, bien sûr. C'est un des principes fondateurs du collectif. Et Mao, il en parle à un moment donné, il dit, mais de manière assez brève, mais il dit
On voulait faire un collectif de boxe différent, un collectif de boxe pour tous. Maintenant, je connais les paroles par cœur. Même les sans-papiers, même les femmes, c'est tout le monde. Et donc, du coup, c'était cette idée que, les femmes ne trouvent pas, et minorités de genre, ne trouvent pas en fait leur place dans un monde de la boxe qui est viril et donc qui laisse accès principalement qu'aux hommes pour se battre et pour apprendre à se battre. Et donc ça en dit long aussi sur même le lien avec ce que fait Mao, quoi. Pourquoi est-ce que c'est que les hommes qui peuvent apprendre à se battre et souvent en fait l'expérience des femmes ou minorités de genre du collectif, c'est que si elles avaient été dans un autre collectif, elles étaient mises de côté. C'est-à-dire que tu pouvais venir, mais t'étais un peu dans le coin de la salle, quoi. Mmh. Et là, l'idée, c'était de construire un collectif où les femmes seraient en fait sur le devant de la salle, sans pour autant que ce soit en non-mixité. Il y avait cette idée que ça reste en mixité. Mais qu'il y ait vraiment un point d'honneur qui soit mis à la pratique des boxeuses. Et je le mets à la fin dans un des cartons, que en fait c'est maintenant, alors je sais pas si c'est toujours le cas, peut-être ça change en fonction des années, mais fut un temps en tout cas marqué où c'est le collectif de boxe, enfin le club de boxe, il y a eu en France le plus de personnes dans la catégorie femmes et en compétition. Et du coup, c'était un vrai objectif. Et c'est pour ça aussi que voilà, c'est très mixte, j'ai l'impression, à l'image, et on a essayé de le garder en tout cas.
Tout à fait. On arrive à la fin de l'émission. J'ai une dernière question à chacun d'entre vous. Où est-ce qu'on peut voir vos films, s'il vous plaît?
Oui, pardon, j'ai pas.
Où est-ce qu'on peut voir ton film? Où est-ce qu'on peut voir ton film, Jamila?
Où est-ce qu'on peut voir mon film? il est en lien sur la bibliothèque municipale de Grenoble. Vous pouvez accéder au film en VOD gratuitement. Voilà.
Bingo.
D'accord. Donc, super.
On parle bien d'un corps provisoire, là.
Bien sûr.
Voilà. Donc, oui, le film est en accès libre, enfin, accès gratuit sur le site de la Bibliothèque municipale de Grenoble. Ouais.
D'accord. On mettra le lien sur notre site, sur le site a2doc.net, adoc.net. On mettra le lien vers ton film.
D'accord.
Alors moi en ligne il est plus disponible, il me semble. Il était sur France TV pendant un petit moment. Mais il va y avoir des projections, bon alors on sait jamais, à Dijon, à Nice. Et là prochainement on va aussi avoir une projection commune avec Jamila et Fabien Fischer aussi, qui est un autre réalisateur du collectif de Cinex, où on va avoir nos films qui vont être projetés à Grenoble avec l'association À Bientôt J'espère, qui fait son festival qui s'appelle Le Monde au coin de la rue, et qui projette trois films de Cinex notamment pendant son festival qui sont autour de la boxe. Voilà.
Super. Formidable. Bon, merci beaucoup. Donc, pour soutenir au courant des prochaines projections, est-ce que tu as des réseaux sociaux
Oui, alors vous pouvez me suivre sur Instagram, mais donc en tapant Arthur Thomas Pavlovski. Et sinon, vous pouvez suivre toutes les actualités sur Le Grec, en fait, qui recense et ces appels à projets dont on a parlé d'ailleurs, par ailleurs, qui peuvent peut-être intéresser des gens, et aussi toutes les actualités des films du Grec, dont La lutte est une fin. Voilà.
Super, formidable. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Je passe la parole à Bernadette Mermier qui va nous faire l'agenda.
Oui, bonjour à tous nos auditeurs. Maintenant est venu le temps de l'agenda des festivités cinématographiques. Socorista de Caroline Kim Morange, qui vient de présenter notre émission, film qui raconte le combat féministe de femmes argentines pour légaliser l'avortement, sera projeté le mardi 3 octobre à 20h au cinéma L'Ermitage de Fontainebleau. Vaille que vaille, d'Anne Galland, faisant la technique aujourd'hui, qui filme avec douceur et humour la mise en place d'un conseil de la vie sociale dans un EHPAD, sera montré le jeudi 5 octobre 2023, lors d'une projection rencontre de 14 à 17 heures à l'hôtel du département du Puy-en-Velay. Anna Rosa, le film très poignant de Katharina Villard, qui avait fait l'objet d'une projection au Cinéma du Réel à Paris en mars dernier, sera projeté le samedi 7 octobre au Cinéma Reflet Médici à Paris. La réalisatrice, dont la grand-mère colombienne a subi une lobotomie, tire les fils de ce drame et explore les liens de la psychiatrie avec la société de son temps et la place très particulière des femmes dans l'histoire de sa famille et de la Colombie. Le vendredi 13 octobre à 19h30 au centre Paris Anime Louis Lumière, 43 rue Louis Lumière dans le 20e arrondissement de Paris, raconte-moi ton docu, une rencontre entre le public et deux documentaristes des pitchs d'Adoc. J'ai nommé Gabriel Laurent et Tom Fontenille qui nous feront partager le processus de création de leur film en cours. Depuis les premières intentions travaillées au sein des pitchs d'Adoc jusqu'à la réalisation de leur projet. Cette rencontre sera suivie par la projection du deuxième des films accompagnés par les pitchs d'Adoc à voir le jour, Andy et Charlie, réalisé par Livia Latendio. Donc il est nécessaire de s'inscrire sur le site d'Adoc pour participer à cette festivité. Le samedi 14 octobre, à 11h au cinéma Luminor de l'Hôtel de Ville. Nous nous retrouverons pour le prochain samedi d'Adoc autour du film « Ces guerriers de la nuit » sur les traces des Benanani de Christiane Rorato. Avec cette séance, nous voulons honorer la mémoire de Christiane Rorato, adocienne depuis fort longtemps, disparue le 1er avril 2023. Elle fut d'abord comédienne, puis réalisatrice de films documentaires. Elle nous emmène au Frioul, pays de ses ancêtres aujourd'hui et au Moyen-Âge, à la rencontre des Benandanti. Le débat qui suivra sera animé par Anne Galland. Nous rappelons que le Luminor Hôtel de Ville espère toujours que la Sofra, propriétaire bailleur des locaux du cinéma, revienne sur sa décision de mettre fin au bail. Adoc fait partie des nombreux soutiens à ce cinéma historique du centre de Paris et vous-même pouvez d'ailleurs toujours signer la pétition sur place ou j'imagine en ligne. En tout cas, faites valoir vos voix pour soutenir ce cinéma indépendant. Le mardi 17 octobre à 12h30 à la bibliothèque François Mitterrand, Michel et les siens, une photographie. Un film réalisé par Amélie Cabossel. La réalisatrice, également photographe, propose à sa grand-mère Michèle de poser pour elle. Ces séances de pose sont l'occasion pour elle d'une réflexion sur la famille et le temps. Comment photographier les siens? À plus de 80 ans, quelle image laisse-t-on de soi? Cette projection a lieu dans le cadre du cycle Cinéma de Midi, mémoire de photographe, proposé par la BNF. L'exposition Viva Varda du 11 octobre 2023 au 28 janvier 2024 à la Cinémathèque de Paris, 51 rue de Bercy dans le 12e arrondissement, présente 70 ans de carrière d'Agnès Varda à travers ses films, photos, installations, archives et costumes. Agnès Varda a déployé une œuvre de renommée internationale mais aussi profondément ancrée dans son temps, marquée par le féminisme et la marginalité et qui reste d'une très grande actualité. En banlieue, l'espace 1789, salle de spectacle de cinéma art et essai de Saint-Ouen, met à l'honneur deux réalisatrices de documentaires. Le jeudi 5 octobre à 20h30, Yolande Zoberman avec son film « Classified People », tourné en 1987 de 53 minutes. En résumé, en 1948, alors qu'une loi de classification raciale est proclamée en Afrique du Sud, Robert est jugé métis par le tribunal administratif, alors que sa femme et ses enfants sont classés blancs et le rejettent. Avec Doris, sa deuxième femme, noire, avec qui il vit depuis 25 ans, il raconte la violence de l'apartheid. Le mercredi 18 octobre à 19h20, Claire Simon...